En disant, je suis bien calé dans mon fauteuil.
Direct en jeu, la radio insolite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce parcours qui nous rapproche petit à petit de notre festival Lumière. Et oui, avec Wim Wenders cette année et puis surtout avec, bah évidemment, les frères Lumière, la Villa Lumière, l'Institut Lumière et puis la famille Lumière. Et là, quel bonheur j'ai que d'être avec, alors attention, je me suis entraîné, Marc Durand, Colère Lumière, qui va nous proposer un voyage en lumièrerie. Je ne la connaissais pas celle-là. Bonjour Marc.
Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux de vous trouver.
Ouais. C'est quoi ce voyage en lumièrerie? Je ne la connaissais pas.
Oh, c'est une vieille expression que j'emploie de temps en temps. C'est un peu aussi pour représenter un peu ce que j'appelle aussi la galaxie lumière, c'est-à-dire les membres de la famille Lumière qui ont composé l'histoire de la famille Lumière à partir des années 1840, c'est-à-dire à la naissance d'Antoine Lumière, le père des frères Lumière, et également de ses quatre autres enfants. Cette histoire a commencé pour moi il y a quand même pas mal d'années maintenant, en 1995, pour le centenaire du cinéma, où, avec la ville de Lyon, nous avons réalisé une exposition aux archives municipales de Lyon sur Lumière. Et l'exposition s'appelait Lumière, album de famille, où l'on présentait toute une série d'objets personnels, ainsi que de documents d'archives.
Alors, tu n'es pas n'importe qui, si je puis me permettre, parce que tu aurais pu profiter de cette notoriété pour rester dans l'univers du cinéma. Pas du tout. Toi, carrément, direction les Archives nationales, pour aller faire, c'est même pas une thèse, je sais même pas comment il faut appeler ça, des productions écrites assez conséquentes. Il y en a une que j'ai repérée, que je trouve très intéressante, qui s'appelle « De l'image fixe à l'image animée ».
Oui, tout à fait. C'est un catalogue d'archives. Alors, ça consiste essentiellement à donner au public des références de documents d'archives, et en particulier dans un domaine qui est peu utilisé, qui sont les documents notariés. Ces documents notariés permettent d'avoir une vision très intime de la vie des familles, de toute famille, quelle qu'elle soit, puisqu'elle permet un peu de connaître un peu leur niveau socio-culturel, socio-économique, surtout au travers de contrats de mariage, de succession. Ça permet vraiment disons, d'avoir une sorte de vue négatif plutôt, par rapport à la photographie, par rapport à une photographie positive. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, je travaille donc aux Archives nationales dans le service qui gère les archives notariales des notaires parisiens. Et dans ces archives, j'ai trouvé plus de 5000 références d'actes notariés sur l'histoire de la photographie, qui concerne aussi bien des photographes professionnels que amateurs photographes, des physiciens, des astronomes. La photographie est née d'une science et d'un art. Et c'est ce que j'ai voulu un peu mettre en avant dans ce travail qui m'a pris à peu près une quinzaine d'années. Et j'ai eu cette chance énorme, mes responsables m'ont laissé faire. Ils avaient bien du mérite en me faisant confiance. Voilà, donc ça donne, comme je dis toujours, ce sont deux volumes. Ça fait à peu près 5,5 kg.
C'est à peu près aussi lourd qu'un cinéma.
Seulement. Et c'est à peu près aussi un peu moins lourd qu'un cinématographe, oui. Ou à peu près la même chose.
Voilà. On n'a pas tellement l'habitude de porter un cinématographe, si je puis me permettre.
Non, c'est vrai que c'est assez rare maintenant. On a des choses pour capter les images beaucoup plus pratiques, comme un téléphone portable.
Comment on se sent quand on est arrière-petit-neveu des frères Lumière?
Je ne vais pas te dire qu'on se sent comme tout le monde, parce que évidemment qu'à un moment donné, voilà, on se dit oui, quand même, on est né dans une famille, comme disait ma grand-mère, un peu de fouchtrac, c'est un terme qu'elle employait.
Ah, carrément.
Oui. Et alors, ce que j'ai eu la chance d'avoir été élevé, et je crois que tous les membres de la famille Lumière ont été élevés un peu de la même manière. J'ai vraiment le souvenir quand j'étais gosse que ma grand-mère et ma mère me disaient, bon, en effet, bon, bah voilà, nos arrière-grands-oncles ou nos grands-oncles, c'était Auguste et Louis Lumière, mais nous, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé le cinéma ni rien d'autre, on est comme tout le monde, donc il n'y a pas de raison de la ramener plus que les autres. Tu vois comme à quel point j'ai réussi à appliquer cette formule, ce que je suis avec vous aujourd'hui. Mais quelque part, je suis à peu près sûr que ça m'a un peu sauvé. Il n'y a qu'un terme qui m'arrive dans la tête, c'est justement de pas vraiment avoir, je crois, avoir la grosse tête. J'ai très bien vécu mon enfance, mon adolescence, mon jeune âge. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Et en réalité, ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui avec vous, c'est pas du tout le fait que j'ai quelques globules rouges en commun avec Louis Lumière, mais c'est justement mon travail aux Archives nationales. Moi, je suis historien des sciences et en particulier de la photographie et des premiers temps du cinéma. Et ma légitimité, elle est là. Elle n'est pas du tout dans ma relation presque charnelle, si on peut dire, en étant un des descendants d'Antoine Lumière et Joséphine Costi, qui sont donc les parents de Louis et Auguste Lumière, et également de Jeanne, Juliette, France et Édouard, qui sont les quatre autres frères et sœurs des frères Lumière, qui sont peut-être moins connus, mais qui ont aussi eu un parcours absolument passionnant. Voilà, donc je suis surtout là et essentiellement là. Ma légitimité, elle tient en effet pour moi dans mes recherches et ma connaissance sur cette famille. J'ai la chance d'avoir ces deux casquettes, à la fois familiale et professionnelle.
D'accord. Donc, c'est pas un poids que de porter un nom comme ça. Parce que je me
Non,
rappelle
non,
avoir
pas
vu
du tout.
certains artistes qui me disaient être le fils ou la fille d'eux, c'est un poids.
Non, non, non. Alors, c'est pas du tout un poids. En plus, bon, moi, mon nom, c'est Durand. Donc, Monsieur Durand, tu vois, j'ai presque l'impression d'être dans un film de Pagnol, en étant lyonnais en plus. Donc, le nom n'est pas du tout une charge. Et ce qu'il y a derrière, par rapport à ce que c'est mes oncles et tantes et arrière-grands-oncles, arrière-grands-parents ont pu faire de leur vie. Crois-moi que ça te fait un peu réfléchir, te dire si j'arrivais déjà en bas de leur cheville, ça serait déjà pas mal. Et je pense que j'en suis à peu près là. Franchement, j'en suis à peu près là. Quand on voit leur parcours, ne serait-ce qu'aux frères Lumière, mais aussi à leur sœur Jeanne, à son mari René Keller, donc à mes arrière-grands-parents, voilà, c'est absolument effarant, quoi.
En quoi
Donc,
c'est
non, c'est pas un coup.
important de garder cette histoire? Toi qui travailles aux Archives nationales, on pourrait dire que le passé, c'est le passé, et ce qui est important, c'est le présent et surtout le futur. Mais en quoi c'est important de pouvoir compter toutes ces histoires?
Alors, je pense que c'est important, bon, je veux presque enfoncer un peu des portes ouvertes, mais oui, c'est important de savoir d'où l'on vient. Chacun d'entre nous, absolument chacun d'entre nous. Bien sûr, bon, parfois, il y a des gens qui ont des ascendances absolument qui peuvent paraître très lourdes à porter, mais c'est très important de savoir d'où l'on vient. J'ai retrouvé au travers de mes recherches, et chacun, encore une fois, chacun peut arriver à reconstituer un peu l'histoire de sa famille. C'est justement, nous sommes un pays de droit écrit, donc tous ces écrits sont conservés au sein des archives nationales, départementales, des archives de la Défense ou des affaires étrangères. Enfin, bon, il y a énormément de centres d'archives. Tu sais, ça, ne serait-ce que pour vous donner une idée de ces archives, il y a les connexions qui sont réalisées par les Français sur les sites des archives départementales, ça se chiffre par milliards, par milliards.
Ah, carrément.
C'est absolument gigantesque. Si on mettait bout à bout toutes les archives notariales de la ville de Paris, des origines à nos jours, en gros, enfin pas à nos jours, non, jusqu'en 1939, on irait de Paris à Versailles. Donc ce sont des milliards et des milliards de documents et chacun d'entre vous, vous avez quelque chose, vos actes notariés, vos actes d'état civil, qui vous permettent de reconstituer l'histoire de votre famille, même si vous pensez qu'elle n'a entre guillemets rien fait. Si elle a fait des choses, et à ce moment-là, dans des archives, par exemple, je donne un exemple qui me semble intéressant, ce sont les archives liées au recrutement militaire, où on vous décrit physiquement comment était votre grand-père ou votre arrière-grand-père et même votre arrière-arrière-grand-père, s'il a les yeux bleus ou les pieds plats. Et à ce moment-là, vous découvrez pourquoi vous avez les pieds plats ou les yeux bleus. Voilà, donc c'est important de ce rôle, de se lier à son passé, parce que nous en sommes issus. Et c'est en connaissant son passé qu'on essaie d'y un peu de prévoir et de faire son avenir,
D'accord.
je pense vraiment.
Dans quelques minutes, je vais avoir le plaisir d'accueillir Jean Grimaud. Et alors, avec lui,
Oui.
tu collabores. Alors, j'aime bien le thème de la pièce qui va sortir bientôt. Parce que la pièce, c'est la vraie histoire de la famille Lumière. J'ai
Oui.
bien aimé le mot la vraie histoire.
Oui, il y en aurait-il une fausse?
Non, il y a de la légende, on va dire, mais bon.
Oui, alors j'ai écrit cette pièce dans un but très particulier, c'est d'essayer d'emmener dans une sorte de vaisseau spatial, d'emmener le public au sein de la famille Lumière en 1895, et d'essayer de développer un peu les relations familiales qu'il y avait, un peu le caractère de chacun, d'Antoine Lumière, le père des frères Lumière, les frères Lumière. Leur mère, qui s'appelait Joséphine, leur sœur, une de leurs sœurs, Jeanne, leurs collaborateurs, leurs employés. Et au travers de ce texte, voilà, on découvre un peu toute l'importance qu'a eu Antoine Lumière dans le rôle de la création du cinématographe et comment Louis Lumière, par quel mécanisme intellectuel, il a réussi à comprendre quel était le mécanisme justement à appliquer pour projeter des images ou des photographies animées. Bon, et donc cette pièce de théâtre qui va se jouer en effet la semaine prochaine pour quatre représentations, Jean vous en parlera plus loin, pour but donc de montrer à un large public comment le cinématographe, pardon, est né dans la tête de Louis Lumière et sur l'incitation de son père Antoine. Donc,
D'accord.
j'ai vous voilà, c'est le thème, la thématique principale de cette pièce, c'est de faire découvrir au public l'intimité de cette famille, pardon, avec également les liens entre leurs employés, leurs collaborateurs les plus directs, voilà, d'essayer de recréer un peu l'ambiance qu'il y a eu à Lyon, à l'époque rue Saint-Victor, ce qui est aujourd'hui la rue du premier film. Voilà, c'est le thème principal de cette pièce que j'ai la joie et le bonheur de jouer aussi, parce que je me perds aussi sur les planches de théâtre depuis quelque temps,
Oui.
et avec mes copines et mes copains théâtreux. Voilà, alors c'est une pièce entre guillemets sans prétention, mais qui espère quand même toucher le public et peut-être un jour toucher aussi un monde plus professionnel. Voilà, c'est une sorte pour moi un témoignage pour expliquer un peu vraiment comment ça a pu vraisemblablement se passer, parce que hélas, il n'y a pas de témoignage écrit très précis là-dessus. Louis Lumière n'a jamais tenu un journal de bord ou un journal intime ou un journal de travail, hélas. Donc, en réalité, on ne sait pas vraiment comment ça s'est réellement passé, mais ce que je propose, c'est à partir de documents et d'archives ou de textes d'interviews de journaux à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de radio ou de téléphone portable.
Et non.
Donc, il n'y avait que l'écrit, et c'est très bien, parce qu'au moins, les écrits restent. Après, nos paroles, parfois, sont coupées par la modernité, comme on vient de le voir.
Tout à fait, exactement. Pour en finir, puisqu'on parle de la vraie histoire, moi je me rappelle quand j'étais à Cannes, j'ai eu l'occasion de rencontrer les édiles de la ville de La Ciotat. Et ça a été toujours, comment dire, la grande polémique, puisque nous on a notre tradition, c'est-à-dire on a notre film La Sortie des Usines Lumière qui se fait tous les ans, d'une part dans le cadre du Festival Lumière, mais aussi pour le grand public au mois de mars. C'est La Sortie des Usines ou c'est l'entrée du train dans le gare de La Ciotat le premier?
Alors... quel est le premier film tourné par
Lumière? Oui, parce qu'on sait...
Alors, je vais faire un peu de pub pour un site qui s'appelle Catalogue Lumière. Ce sont des Belges qui ont créé ce site à partir d'un travail fait en 1995 pour recenser et reconstituer l'historique de tous les films tournés par la société Lumière. Bon, point. Ensuite, le premier film tourné par Louis Lumière est La Sortie des Usines, le 19 mars. On le sait parce qu'on a fait un travail que je trouve extraordinaire sur ce qu'on appelle les ombres architecturales. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quand vous êtes dehors, selon le positionnement du soleil, en été, en hiver, au printemps ou en automne, nos ombres ne sont pas les mêmes à la même heure. Donc, on peut savoir précisément le jour et l'heure où un film est tourné. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les premiers films. Et donc, on sait que c'est tourné. On connaît la latitude et la longitude aussi. Donc, c'est bien à Lyon et pas à Tamara 7.
D'accord.
La sortie, c'est à Lyon. Et l'arrivée du train, c'est bien sûr à La Ciotat. En 1896, au mois d'avril, mai, juin, on n'est pas très sûr de la date précise. Donc, ce n'est pas du tout le premier film de l'histoire du cinéma. De tête, je vous dirais que ça doit être à peu près entre le 15 et le 20e. Mais c'est un des plus connus avec L'Arroseur arrosé. Bon, il y a quand même trois films célébrissimes. C'est La Sortie d'Usine, L'Arroseur et l'arrivée du train. Donc, en effet, La Ciotat est un autre berceau du cinéma. Maintenant, bon, historiquement, ce n'est pas à La Ciotat que le premier film a été tourné. Je crois, le 6e, 7e, 8e et 9e, en été 1895, où ils ont tourné, entre autres, La Mer, qui a été projetée. Là, on sait tout ça parce qu'il y a des comptes rendus dans la presse de l'époque, par un journaliste qui s'appelle Léo Bonifay, dans la Marseillaise. Donc on a précisément le déroulé de toutes ces séances du cinéma entre le 28 décembre 1895, où c'est la première fois que les gens payent leur place de cinéma. Là, entre ces deux séances, il y en a quand même eu une quinzaine. C'est pas du tout la première séance du cinéma le 28 décembre, c'est pas du tout la première. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont assisté à des projections de cinématographie à Lyon, à Paris, même en Belgique, à Louvain et à Bruxelles au mois de novembre. Tout ça est entièrement, si j'ose dire, à reconstituer par le grand public, s'il le souhaite. Voilà, ne retient que les dates emblématiques. Donc la première séance et puis celle du 28 décembre. Et l'arrivée du train en gare de La Ciotat qui quand même sera un des films les plus marquants avec cette histoire connue où les gens avaient peur et pensaient que la locomotive allait leur,
oui, exactement,
sortir de l'écran. C'est tout à fait vrai. Il y a une autre anecdote que je trouve absolument hallucinante, c'est au mois de juin de l'année 1895 où Louis Lumière va tourner un film avec le directeur de l'Observatoire de Paris qui s'appelle Juste Janssen et puis un autre personnage, Bourguignon, je crois qu'il s'appelle. Et donc il tourne ce film, hélas, c'est perdu aujourd'hui. Et il tourne le film et le lendemain, il le projette lors d'un congrès de sociétés savantes et de sociétés de ciné, de photographes à Lyon, au mois de juin, début juin. Et il demande à Janssen et à Bourguignon de passer derrière l'écran et de refaire leur dialogue. Donc, le premier film parlant de l'histoire du cinéma, c'est le 2 juin ou 3 juin 1895. Alors, c'est un film parlant un peu particulier, puisqu'il n'a pu avoir lieu qu'une seule fois, parce qu'on n'allait pas demander à Janssen de venir à chaque fois qu'on projetait cette image, ce film. Mais c'est la première fois aussi où on voit des images avec du son, avec de la parole. Je crois que cette anecdote est quand même assez peu connue.
C'est passionnant. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver justement toutes ces informations? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce que tu as fait un...
J'allais te dire qu'il faut greffer mon cerveau sur internet, mais bon, c'est un peu...
Oui. Enfin,
très facile. On n'y est pas encore.
Non,
pas encore. Non, pas vraiment. En tout cas, je ne le connais pas, ce site, à part le site que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment formidable, qui reprend donc les recherches faites en 1900, hein, il y a 25-30 ans maintenant, par rapport à ce site qui s'appelle donc, c'est sur le catalogue Lumière, où vous avez le détail de chaque tournage, les dates précises, les références. C'est un travail archivistique du ministère de la Culture auquel donc j'ai participé. Moi, je m'occupais des films dits de famille, c'est-à-dire d'à peu près de la cinquantaine de films tournés par Louis Lumière, où D'accord. on voit essentiellement les membres de sa famille, son épouse, sa belle-sœur, ses enfants, sa fille, ses nièces, son neveu, qui sont là. Donc voilà, c'est tout à fait détaillé. Je pense que c'est un des sites les plus remarquables qui a été proposé. Bon, bien sûr, il y a également le site de l'Institut Lumière qui a repris tout ça. Voilà, je dois aussi rendre hommage à Thierry Frémaux qui dirige l'Institut Lumière. Voilà, c'est qui a hissé notre ville. Je dis bien notre ville, Lyon, au rang quand même. Je crois que le Festival Lumière, c'est le troisième festival au monde maintenant du cinéma en une dizaine d'années. C'est absolument hallucinant. C'est donc vraiment, bon, on doit à Thierry d'avoir, je crois qu'il porte pour moi dans mon esprit, dans mon cœur aussi. Et voilà, il porte aussi l'industrie cinématographique française et aussi internationale. Et voilà, merci de me laisser lui rendre hommage.
Et puis n'oublions pas aussi Bertrand Tavernier, qui a été notre grand président de l'Institut Lumière, qui nous a quittés, qui était quand même un grand bonhomme. Je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes. Évidemment, comme le meilleur moyen, je crois, c'est d'aller voir la pièce de théâtre, hein, Les Usines Lumière.
Voilà. Dont Jean va vous parler dans quelques instants, je pense.
Exactement. Bien sûr. Merci à toi.
C'est moi qui vous remercie à toutes et tous d'avoir pris ce moment pour nous écouter, Alain.
Merci.
Merci à toi, Alain, aussi, de tout ton travail.